Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e émission de Place aux idées, l'émission des Amis du Parc avec Véronique Morel. Bonjour Véronique.
Bonjour Sophie.
Mais aussi l'émission des citoyens de Chartreuse sur la transition écologique. Avec aujourd'hui les actus de la transition écologique et des projets Écolab en Chartreuse et pas mal de sujets à éplucher avec Véronique. Alors, on commence, Véronique, avec les actus de la transition écologique et des projets Écolab en Chartreuse.
Oui. On va commencer par un rapport qui est sorti en octobre sur l'état de l'environnement en France. Donc, le dernier rapport datait de 2014, donc à peu près 5 ans. 6 rapports ont été faits depuis 1994 et c'est vraiment pour mesurer l'état de la qualité de l'air, des sols, de l'eau, des rivières, etc., de toutes nos ressources. Ce rapport donne quelques bonnes nouvelles quand même, on va pas être complètement pessimiste. Simplement, il y a quand même encore des dégradations et le fait que la transition écologique ne va pas assez vite pour atteindre les objectifs qu'on s'est nous-mêmes fixés d'ailleurs à la COP de Paris en 2015.
Alors, qu'est-ce qui ne va pas assez vite, justement, Véronique ?
Alors, ce qui ne va pas assez vite, par exemple, c'est la diminution des gaz à effet de serre. Donc, il semble qu'il y ait une diminution quand même, pas forcément très très rapide, mais quand même régulière depuis quelques années. Mais elle n'est vraiment pas assez rapide par rapport à ces objectifs qu'on s'était fixés. Il y a des rejets de polluants dans l'air. Alors ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles qui semblent diminuer, comme l'oxyde d'azote. Mais il y a toujours des pics de pollution dans les grandes villes. À Grenoble, on en a plein l'été.
Et pour cause ?
Voilà, surtout à cause des grands pics de chaleur l'été.
Et d'une, et de deux, par rapport au fait qu'il y a encore beaucoup de circulation en voiture, avec des engins à moteur qui génèrent de la pollution de façon générale. Des camions aussi.
Ça, c'est clair. Après, on a aussi la qualité des eaux souterraines qui là est assez préoccupante. Alors, il n'y a vraiment pas d'amélioration depuis l'an 2000. Il faut savoir que depuis 2000, il y a 2400 forages destinés à la production d'eau potable qui ont dû être abandonnés parce que l'eau n'était pas d'une qualité suffisante. Donc, elle était polluée par des nitrates, des pesticides, etc. Donc, même s'il y a des changements progressifs dans les pratiques de l'agriculture, qu'on peut pas négliger, qui sont attendus et qui sont quand même, qui commencent à devenir significatifs, il y a des effets à très, très long terme sur les milieux. Et donc, ça nous prendra des années pour éliminer tout ce qu'on a pu mettre dans les sols qui sont descendus dans les nappes, etc. Pour notre consommation d'eau et pour les milieux, ça va être des problèmes pendant des années. Et puis, on a aussi des écosystèmes qui sont dans une situation préoccupante. Donc, on a beaucoup entendu parler de ces études sur la population des oiseaux et des insectes en chute libre depuis des décennies. Vraiment en chute très, 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 très forte. Les insectes, je crois que c'est 70% d'insectes en moins depuis les années 70. C'est quand même assez fort. On peut tous se rappeler quand on était gamin et qu'on partait en vacances en voiture, qu'on était obligé de laver le pare-brise de la voiture à chaque fois qu'on faisait le plein. C'était une autre époque. Là, on peut descendre jusqu'en Espagne si on veut en voiture. Le pare-brise, il va rester propre.
D'accord. C'est pas bon signe. C'est peut-être mieux pour le pare-brise, mais c'est pas très bon signe.
C'est pas très très bon signe. Donc après, moins d'insectes, ça fait moins d'oiseaux. Enfin bref.
Puisque les oiseaux se nourrissent d'insectes, on remarque aussi qu'on a beaucoup moins d'oiseaux qui viennent gazouiller sur nos terrasses, nos balcons, hélas.
Oui, tout à fait.
Par rapport à avant. Il faudrait pas que ça dure.
Il faut agir pour que les milieux soient plus accueillants pour ces animaux, oui. Et puis quand même, parmi les bonnes nouvelles, on peut signaler que la transition écologique, c'est pas incompatible avec l'emploi. Au contraire, on a déjà 500 000 emplois développés dans le domaine de la protection de l'environnement et de la transition écologique. Donc c'est seulement 2% de l'emploi total, donc ça va pas vite. Mais ça progresse et beaucoup de jeunes qui se forment aujourd'hui à ces nouveaux métiers,
Sont sensibilisés à ça.
Oui, qui sont sensibilisés à ça. Et puis il y aura une demande dans l'avenir, c'est des préoccupations dont il faut vraiment qu'on
Donc des formations, peut-être un peu plus de formations qui vont se mettre en place sur cette thématique.
Et là, c'est vraiment les emplois directement sur la protection de l'environnement et la transition écologique, mais tout ce qui est...
Transversal
et intégré dans des fonctions des entreprises n'est pas compté dedans, donc C'est quand même ça significatif, 500 000 emplois.
D'accord. Est-ce qu'on a des chiffres sur la création de ce type d'emploi dans d'autres pays qu'en France? Est-ce qu'il y a des pays qui sont un peu plus novateurs ou un peu plus en avance là-dessus?
Alors non, c'est une colle, mais je chercherai pour l'émission numéro
Super.
9.
On y reviendra alors.
Ah oui.
Et en Isère, quel est l'impact du changement climatique, Véronique?
Alors en Isère, plus spécifiquement, on se rapproche de nos milieux de montagne, on voit vraiment un impact très très fort déjà, et notamment une tension sur la ressource en eau qu'on peut voir sur nos territoires. Donc c'est pas si simple à expliquer, mais en fait on a la même quantité d'eau qui tombe du ciel, on va dire ça comme ça, même quantité de précipitation, seulement compte tenu de l'élévation des températures, elle tombe plus sous forme de pluie et moins sous forme de neige. Donc elle descend plus vite des montagnes dans les rivières et vers la mer. Elle est moins stockée dans les montagnes sous forme de neige. Du coup, au printemps, les rivières, le niveau des rivières remonte moins. Donc ça, c'est quand même un problème. La sécheresse arrive plus vite. Au niveau de l'été, dure plus longtemps et commence plus tôt. Et puis en plus, on a plus d'évaporation puisque les températures sont plus élevées. Du coup, au final, on a quand même moins d'eau disponible pour le milieu. Donc tout ça, ça donne une tension sur la ressource, d'autant plus que la consommation domestique, donc ça c'est nous, hein, les ménages, pour nos activités de tous les jours, etc., pour nos loisirs aussi. Et puis la consommation agricole est en hausse. Donc au final, c'est un petit peu comme si on avait un mois de pluie en moins sur nos massifs. Donc,
avec
c'est important.
Une consommation en hausse, effectivement, donc c'est pas synchronisé, on va dire.
Non, c'est pas du tout synchronisé, plus de tension et moins de ressources. Il y a déjà des communes en Chartreuse qui ont été obligées de faire venir de l'eau par camion-citerne l'été dernier à Saint-Jean-de-Coup, Saint-Thibaud-de-Coup par exemple, pendant quelques semaines.
C'est pas si loin
Donc
de nous,
c'est
juste
pas
après
très
le
loin,
tunnel.
Voilà, ouais. Il suffit de passer le tunnel. On a la rivière du Causon qui a été à sec sur plusieurs kilomètres cet été pendant quelques semaines aussi. Dans les entremonts, donc non, c'est chez nous déjà. Alors la Chartreuse, c'est vert, donc on a un peu du mal à se le représenter, mais en fait, la sécheresse, c'est quand même
c'est
là.
C'est vert, et on dit que c'est humide, effectivement, mais c'est vrai qu'on a ressenti, comme partout ailleurs, les pics de chaleur qu'on a eu cet été, notamment en journée, même si le soir, on respire heureusement un peu plus, parce qu'on a un peu plus de chlorophylle, peut-être, et les vents thermiques du soir, mais néanmoins, dans les journées, ça quand même, on a bien ressenti les pas loin de 40 degrés.
Tout à fait.
Voilà.
Après, en ce qui concerne l'enneigement, là, comme je disais, l'eau tombe toujours quasiment autant, mais sous forme d'eau et non plus de neige. Donc, on a l'enneigement moyen qui baisse sur le long terme, hein, qui a perdu 50 cm au col de Porte à peu près entre 1960 et 2018. Bon, ça fait sur 50 ans, hein, 60 ans, mais quand même, c'est significatif.
Pas mal. C'est pas mal.
Les glaciers des Alpes qui disparaissent. On sait qu'à peu près tous les glaciers situés en dessous de 3600 mètres d'altitude sont condamnés avant la fin du siècle. Donc c'est vraiment un changement qui est très très rapide, hein, parce qu'en fait on a eu des changements, des aires climatiques diverses que la Terre a vécu depuis sa naissance.
Oui.
Mais la transition elle est beaucoup plus lentement, et là c'est clairement dû aux activités humaines, c'est ça qui pose problème en fait.
D'ailleurs, en passant, même si c'est un peu loin de nous, des gens comme Donald Trump, justement, font très très peur par rapport à leur négation de l'activité humaine sur le changement climatique.
Là, c'est vraiment un combat d'arrière-garde et très dangereux. Enfin, après, à l'âge qu'il a, on peut comprendre que l'avenir ne l'intéresse plus trop.
Oui, mais enfin, on s'en fiche un peu de lui. Il représente quand même des citoyens et un certain nombre. Il a des enfants, des petits-enfants, j'imagine aussi. Et il est dans une forme de déni qui est assez ahurissante, on va dire.
C'est assez ahurissant, oui. Je pense qu'effectivement, là, il faut vraiment passer cette phase de déni. Enfin, la plupart des gens ont quand même passé ce stade-là. Et se rendre compte qu'on y est pour quelque chose, et du coup, c'est aussi à nous de faire quelque chose.
Qu'on est acteur de demain, effectivement. Alors, donc, effectivement, sur les glaciers en Isère, qu'est-ce que ça donne en particulier?
Alors, sur les glaciers en Isère, au-dessus de l'Alpe d'Huez, en Suisse, etc., ils sont tous en train de diminuer, voire de disparaître. Je crois que c'est... on n'est pas en Isère, hein, mais en Suisse, il y a une plaque, un panneau qui a été posé il y a quelques semaines pour dire ici, enfin CJ, le glacier, je ne me rappelle plus son nom, mais pour marquer le fait qu'ici, avant, il y avait un glacier et qu'il a disparu. Donc, pour marquer les esprits hein, aussi. Voilà. Les hivers sont de moins en moins enneigés.
Ça, on l'a remarqué.
Voilà, aujourd'hui, c'est un hiver sur cinq qu'on considère comme peu enneigé. Mais on sait que d'ici 20 ou 30 ans, ça sera un sur trois. Et voilà, on va aller vers... Avec nos altitudes de station, on sait qu'on va aller vers, de toute façon, beaucoup moins de neige.
Alors, nos altitudes à nous, en Chartreuse, ça reste des petites stations de moyenne altitude. Effectivement, la mue vers le tourisme des quatre saisons, c'est un sujet dont on entend parler depuis plusieurs années, avec une nécessaire évolution et un deuil d'un temps passé qui ne sera plus, on va dire, qui est long, hein, qui est long parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Mais
oui, c'est effectivement long. Ça demande un changement, une adaptation des esprits et puis des pratiques, vraiment se tourner vers autre chose.
Une acceptation de la réalité et une acceptation qu'il va falloir fonctionner autrement. Hein.
Et c'est vrai qu'on peut, on peut espérer faire encore un petit peu de ski pendant quelques années ou 20 ans, ou, voilà, mais on sait tous que ça va toucher à sa fin. Donc, il faut vraiment prendre le problème en face et pas dire de...
Et pas attendre que le ciel nous tombe sur la tête.
Non, ni laisser de faux espoirs par manque de courage.
Exactement, par manque de courage aussi politique,
oui,
d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Alors, justement, alors l'adaptation du tourisme et puis l'adaptation également des pratiques agricoles.
Oui, alors
de quelle façon ?
Alors en Isère, il y a deux choses, l'Isère et la Chartreuse. Donc en Isère, il y a pas mal d'expérimentations menées par les chambres d'agriculture pour adapter les espèces cultivées, essayer de transférer les cultures d'espèces plus gourmandes en eau vers des espèces un peu moins gourmandes. Par exemple, les sortes de céréales qu'on va cultiver. Essayer de faire des rotations ou des alternances pour nourrir le sol de façon un peu plus naturelle avec des légumineuses, par exemple, plus fréquemment. Essayer de changer les périodes de semis pour essayer de faire en sorte que quand la sécheresse arrive, parce que, maintenant, on sait qu'elle arrive de toute façon, donc tous les ans quasiment, qu'on se trouve en moins grand besoin d'alimentation en eau à ce moment-là, donc peut-être en changeant un petit peu les périodes de semis pour les anticiper si on peut. Et puis, essayer de gérer l'eau comme un bien commun en partageant entre ce que les activités humaines ont besoin de ponctionner pour l'agriculture, le tourisme, les usages domestiques, l'industrie, etc. et ce que l'environnement demande et qu'il faut quand même servir... avant nos activités non indispensables, on va dire.
Oui. Voilà. Et on se pose la question sur le côté indispensable des activités de sport d'hiver, d'ailleurs.
Alors, on peut se poser la question, oui, de savoir dans quelle mesure on doit ponctionner sur cette ressource en eau pour alimenter des activités qui sont des activités de loisirs. Voilà, quand on met en péril effectivement l'équilibre de l'environnement pour ça, oui, on peut se poser la question.
Peut-être donc, à plus forte raison quand on est dans un parc naturel régional ou national d'ailleurs.
Oui.
Les haies et les bandes en herbe pour favoriser la biodiversité.
Oui, alors ça c'est aussi des idées de sortir des grandes surfaces de monoculture avec des champs très très grands et sans aucune haie, etc. Donc qui facilitent la mécanisation, la culture, etc. Ça on va pas dire le contraire, mais qui sont aussi quelque part à la source de la diminution des populations d'oiseaux puisqu'ils trouvent plus aucun refuge, aucun endroit pour faire leur nid. Pour butiner, pour les insectes, etc. Donc remettre des haies là où c'est possible et des bandes herbeuses aussi pour faciliter la vie des petits animaux qui nous aident aussi, qui sont des auxiliaires dans les cultures.
Et qui font partie de la chaîne
et qui font partie de la chaîne alimentaire. Voilà. Là où c'est possible, c'est des sujets qui sont aussi à l'étude.
Alors en Chartreuse, il y a une initiative intéressante qui a été mise en place par les agriculteurs de l'AAC. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, donc les agriculteurs de l'Association des agriculteurs de Chartreuse, l'AAC, commence à réfléchir aussi à l'adaptation, enfin aux enjeux du changement climatique pour leurs pratiques et à l'adaptation de leur culture. Donc il y a un groupe de travail qui s'est monté avec le pilotage du parc, les agriculteurs bien sûr, et beaucoup d'acteurs du territoire, donc effectivement les pêcheurs, les amis du parc, des associations qui œuvrent pour l'environnement.
De chasse donc aussi.
Oui, des collectifs de citoyens, etc. Donc l'idée c'est vraiment que tout le monde se mette autour de la table et tout le monde apporte ses idées et ses compétences et ses visions pour aider les agriculteurs à mieux identifier des idées qui pourraient leur servir pour l'avenir, et voilà. L'idée, c'est vraiment pas de les mettre à part et de se dire, oh là là, il y a de la pollution, il faut arrêter tout ça, mais c'est de voir avec eux comment on peut faire et comment on peut les aider. Par nos achats locaux aussi, on peut les aider.
Bien sûr. Tout à
fait. Donc, c'est pas simple, hein, d'avoir une agriculture qui commence à faire une transition, c'est vraiment compliqué.
Oui, mais c'est déjà bien d'avoir eu cette initiative.
Oui, tout à fait, c'est vraiment bien, il faut les soutenir là-dedans.
Et de ne pas rester dans leur coin en plus, ouais. en sollicitant les autres lobbying ou parties prenantes par rapport
oui.
à ça.
Et en allant aussi à la rencontre des habitants et des consommateurs de leur territoire, hein, de se faire connaître et de chercher de l'aide. Donc c'est super,
c'est important.
Et il faut vraiment les soutenir là-dedans.
Super. Eh bien, sur ces bonnes paroles, on va se faire une petite pause musicale avec une chanson de Charles Aznavour, « La terre meurt ».
Les océans sont des poubelles et les fronts de mer sont souillés. Les Tchernobyl d'Henri Bambel voit naître des fœtus mort-nés. Dans 50 ans, qu'allons-nous faire de ces millions de détritus et ces déchets du nucléaire dont les pays ne veulent plus? Sous nos pieds, la terre promise, patrimoine de nos enfants, petit à petit agonise, nul ne s'en soucie. Et pourtant des espèces devenues rares sont en voie de disparition, et la laideur chante victoire sous le plastique et le béton. La terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout, il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt, où allons-nous? Dans la finance et les affaires, le pétrole est le maître mot, il mène à tout, même à la guerre, et nul ne s'inquiète de l'eau. Où en sont la flore et la faune? Et qu'advient-il du firmament privé de la couche d'ozone, gardien de l'environnement? Sous le ciel, le sol se révolte, car l'homme trompe la nature. Quand il trafique les récoltes, il hypothèque son futur. Sous le soleil, les forêts brûlent, et l'on gave les champs d'engrais dans la boulimie majuscule du rendement et du progrès. La terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout, il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt, où allons-nous? Il est temps de prendre conscience que l'homme ne respecte rien. Il se fiche de l'existence des baleines et des dauphins. L'éléphant meurt pour son ivoire, la bête rare pour sa peau, et dans les grandes marées noires, le mazout engle les oiseaux. La société consommatrice avance impunément ses pions, tandis que les arbres pourrissent dans les villes et leurs environs. La la sécheresse se déchaîne, effaçant tout signe de vie. Et certaines races humaines crèvent d'abandon et d'oubli. La terre meurt, l'homme s'en fout, oublie sa vie. Un point c'est tout, il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt, où allons-nous? La terre meurt, réveillons-nous.
Réveillons.
Réveillons-nous, eh bien oui, nous portons aussi la bonne valeur, cette bonne valeur avec les Amis du Parc et notamment Véronique Morel dans cette 8e émission de Place aux idées. Et nous parlons justement de transition écologique et de l'état de la Terre. Alors, Véronique, quoi de neuf justement pour commencer à parer aux dégâts dont on vient de parler, renforcés par la chanson de Charles Aznavour? Quoi de neuf dans la loi?
Alors, dans la loi s'attaque aux emballages, sachant que l'Union européenne produit chaque année 25 millions de tonnes de déchets plastiques. 25 millions de tonnes, j'ai dit. On a de peine à se... Non, voilà, on ne se rend pas trop compte de ce que ça donne. On sait que ce qu'on retrouve dans la mer, les plages, etc., dans les rivières, parmi les 10 produits en plastique qu'on retrouve le plus, c'est des produits à usage unique en plus. Ça veut dire qu'on va s'en servir pendant quelques secondes, quelques minutes au mieux, et qu'on va les jeter. Donc ça, c'est 70% de tous les déchets qu'on retrouve dans la mer.
Alors, est-ce qu'on peut juste faire une petite pause là-dessus? Parce que moi, ce qui m'a toujours interrogée, c'est de me dire, il y a des poubelles partout autour de nous, et comment se fait-il que ces déchets se retrouvent dans la mer?
Alors, il y a deux problèmes. Il y a déjà à la source, pourquoi utilise-t-on tant de choses jetables qui vont nous servir quelques secondes et qu'on va jeter après? Donc ça, déjà, c'est un premier truc. Et la deuxième chose, c'est, oui, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de comportements encore problématiques de gens qui mettent pas les déchets dans les poubelles.
Et oui.
Ça, c'est deux choses séparées sur lesquelles il faut agir de façon différente, hein, sans doute.
Effectivement, les préconisations de la loi ou ce que la loi va apporter, c'est bien. Mais si les gens continuent à avoir les mêmes comportements, ça va pas changer grand-chose. Donc... Le comportemental est aussi important.
Ah oui.
que...
C'est le deuxième volet, mais là, c'est vraiment l'idée de la loi, c'est de limiter les déchets à la source, c'est-à-dire surtout les déchets plastiques, oui, qui sont très difficilement recyclables. Alors, quand on dit, par exemple, à partir de janvier 2020, interdiction de la vaisselle jetable en plastique, gobelets, verres, assiettes jetables, ça veut dire qu'on va les transformer soit, par exemple, en assiettes en carton, qu'on pourra quand même plus facilement recycler que des assiettes en plastique.
On voit aussi d'ailleurs des assiettes en bambou ou des couverts en bambou aussi.
Qu'on pourra pourquoi pas mettre dans la cheminée pour allumer le feu. Enfin après, oui, on peut faire d'autres choses.
Qui sont réutilisables.
Ou qui sont éventuellement réutilisables, voilà. Mais il y a énormément de choses quand on pense au salon, aux fêtes diverses et variées.
Aux événementiels,
c'est
vrai.
Tout l'événementiel consomme une quantité de choses jetables assez impressionnante. Donc, il faut vraiment, vraiment y faire attention. Donc, les gobelets, on a maintenant beaucoup de manifestations qui passent aux éco-cups, donc des gobelets qu'on réutilise, qu'on consigne et qu'on réutilise. Alors, ils sont en plastique, mais ils ne sont pas jetables. Donc, si on peut les réutiliser 15 fois, 20 fois, 100 fois, c'est quand même mieux qu'un verre qu'on va jeter au bout de 3 secondes. À partir de janvier, interdiction aussi des bouteilles d'eau en plastique dans les cantines scolaires. Donc, on aura à la place, je pense, des carafes.
Oui.
Peut-être pas des... Enfin, ça dépend de l'âge des enfants, mais peut-être pas des bouteilles en verre, parce que, voilà, s'il y a de la casse, ça peut être embêtant, hein, comme quand il y a des sorties scolaires, on interdit les bouteilles en verre dans les sacs à dos à cause de ça, pour pas
Donc,
qu'ils se blessent.
Du coup, ça veut dire que ce sera plutôt de l'eau du robinet plutôt
Ça pourrait
que
être de l'eau du robinet. Alors, l'eau du robinet, elle est tout à fait consommable dans, je pense, 95% des communes de France, donc... On peut y aller.
Oui, sans souci pour moi, en tout cas.
Donc, plus de bouteilles d'eau en plastique dans les cantines, plus de touillettes et de pailles en plastique dans toutes les chaînes de restauration, la vente à emporter, les cantines, les commerces. Donc on va remplacer les touillettes par des touillettes en bois peut-être, les pailles. Alors les pailles en plastique, il existe maintenant des pailles métal ou même des pailles carton.
Métal.
Des pailles métal. Alors ça c'est pas du jetable, on peut acheter des pailles pour soi
en métal
ou en inox, je sais pas quoi. Donc on peut laver et réutiliser.
D'accord. Bon, mais j'ai entendu parler moi aussi de pailles en paille.
Ah ben, pourquoi
ça
pas.
Ça vous dit rien, non?
Moi, j'ai entendu parler
de fétus de paille qu'on conditionne en paille à bois.
C'est une bonne idée. Et moi, j'ai entendu parler de paille en pâte alimentaire.
Ah oui, pourquoi pas. Non, mais tant que c'est froid, ça voilà. Risque pas de...
Tant que c'est froid, ça risque pas de ramollir trop.
Dans un chocolat chaud, c'est moins sûr. Mais
et ouais. Sinon, il y a des fibres carton, papier qui sont utilisables aussi.
Oui.
Tant que c'est quelque chose qui sert juste 30 secondes ou 5 minutes,
oui.
C'est tout à fait possible. Et puis, les cotons-tiges en plastique sont aussi interdits à partir de janvier. Donc là, pareil, on a des cotons-tiges avec des tiges en bambou, en bois, des cotons-tiges réutilisables, lavables, etc., en papier.
Oui, en carton, oui.
Ou on peut aussi se laver les oreilles sans coton-tige, ça marche aussi, oui. Hein, y a pas de problème.
On n'a pas appris, mais on apprendra, il n'y a pas de souci.
On va apprendre, donc si c'est seulement ça l'effort à faire, franchement, pour l'instant, on ne parle pas de grosses choses quand même.
D'accord.
Donc, voilà. Donc tout ce plastique à usage unique est interdit à partir du 1er janvier. Et juste pour rappel, depuis 2017, donc ça fait 3-4 ans, les sacs plastiques à usage unique sont également interdits dans les commerces. Donc ce qu'on nous donne maintenant, c'est soit des sacs biodégradables, ceux qui sont un petit peu mous et imprimés souvent avec des logos en verre biodégradables dessus, qui effectivement commencent à s'auto-détruire, on va dire, au bout de quelques jours ou quelques semaines. Ou alors, on nous vend des sacs plastiques plus solides, dits réutilisables.
Enfin, là, c'est... Qui n'ont pas vocation non plus à finir dans la nature.
Non, qui n'ont pas vocation à finir dans la nature et qui sont, on va dire, quand même moyennement réutilisables. Si c'est pour les transformer en sacs poubelles derrière, c'est pas ça qu'on appelle réutilisable. Ouais. Donc, c'est un peu dommage. Voilà.
Alors, dans les autres thématiques à débattre et à échanger aujourd'hui, la Convention citoyenne pour le climat en France, qui est donc une initiative dont vous nous avez déjà parlé, qui a été lancée en octobre 2019. Alors, expliquez-nous comment tout ça fonctionne, se met en place et vers quoi on va aller.
Oui, alors on va aborder maintenant cette convention citoyenne qui a été lancée en France, annoncée l'été dernier et lancée en octobre, donc il y a quelques semaines, avec 150 citoyens tirés au sort et qui vont travailler jusqu'à fin janvier 2020 autour d'une question à la fois simple et quand même compliquée. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030, donc c'est beaucoup, dans un esprit de justice sociale. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir là que la France se lance dans un processus qu'on peut apparenter à de la démocratie délibérative, avec du tirage au sort de citoyens qui vont participer à ces actions-là. Donc c'est intéressant déjà rien que le principe du tirage au sort. Et puis de faire fonctionner une assemblée délibérative, comme ça a été déjà le cas dans plusieurs pays. Mais donc la France s'y essaye aujourd'hui.
Oui.
On va surveiller ce qui se passe et c'est une initiative super intéressante.
D'accord. Alors les travaux vont aller jusqu'à fin 2020.
Jusqà janvier. Non,
ils travaillent. Oui, janvier, fin 2019.
150
janvier.
Personnes tirées au sort qui travaillent 6 week-ends quasiment de suite.
Ah.
Pas tout à fait, mais.
Donc
ils sacrifient. Genre 2 week-ends par mois.
Ben,
oui.
C'est bien. Qui sacrifient 6 week-ends de leur vie privée. Donc ils sont très investis d'une mission au sens noble citoyenne. Et qu'est-ce que c'est qu'une démocratie délibérative et comment on peut mettre ça, quelle est la différence avec ce dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, à savoir la démocratie participative?
Alors c'est dans le prolongement, je vais dire, de la démocratie participative et ça va plus loin. Dans le sens où, enfin là, l'idée c'est vraiment d'avoir des personnes qui sont pas forcément au courant du sujet duquel elles vont débattre, des personnes tirées au sort pour représenter la diversité de la population et des personnes qui vont prendre connaissance de beaucoup d'informations qu'on leur donne à l'avance. qu'elles vont étudier, elles vont se poser des questions, elles vont délibérer, elles peuvent aussi faire appel à des intervenants supplémentaires, décider d'inviter des experts, des personnes travaillant dans tel ou tel domaine, des gens qui peuvent témoigner de tel ou tel sujet pour approfondir certains points. Donc c'est une assemblée qui a une autonomie pour décider ça. Et qui, après avoir réfléchi quand même longuement, enfin 6 week-ends, ça fait pas mal d'heures de oui. travail, en atelier, en plénière, etc., eh bien, elles vont produire une réponse à la question qu'on leur a posée à l'avance. Donc, c'est vraiment un processus long, avec de la prise d'information, de la réflexion, des choses vraiment très profondes. Donc, ça va plus loin
que du participatif
oui. qui peut être réduit à des ateliers limités ou plus
sur
courts,
une journée,
donc ça va vraiment plus loin.
D'accord. Alors la sélection justement des personnes qui doivent participer à ces assemblées délibératives, à ces réflexions délibératives, ils sont sélectionnés comment
Alors ils sont sélectionnés de par tirage au sort, donc c'est vraiment une sélection aléatoire. N'importe qui peut être appelé. Donc en fait là pour la France, pour ce qui est en train de se passer, ils ont pris comme base les listes électorales et les annuaires téléphoniques.
Okay.
Et ils ont passé, je crois, durant l'été, quelque chose comme 300 000 coups de fil. Oui, parce que beaucoup de gens, on propose à plein de gens, mais il y a plein de gens qui ne souhaitent pas, qui ne sont pas dispo, qui, pour des raisons diverses et variées, disent non. Donc 150 personnes ont été du coup tirées au sort. Le tirage au sort, ça permet aussi de gommer tout ce qui est intérêt personnel, intérêt particulier, de garantir qu'il n'y a pas de mandat électif spécialement parmi les personnes qui vont participer. Donc elles ne sont pas impliquées dans les sujets, ce qui permet de mieux réfléchir en fait, pourvu qu'on leur donne les infos nécessaires, et qu'après elles vont en demander en plus, mais ça permet de mieux réfléchir et de se rapprocher plus de l'intérêt général, parce qu'elles n'ont pas d'intérêt personnel sur la question.
À défendre sur les sujets, d'accord. Mm-mm. Et puis, il y a également une vision des enjeux à long terme, comme l'environnement ou la prise en compte des générations futures qui est optimisée, on va dire.
Oui, alors dans les expériences qui ont déjà été menées, on parlera de l'Irlande tout à l'heure, ça a été vraiment montré que des citoyens tirés au sort de cette façon-là, comme ils n'ont aucun intérêt personnel sur les questions, ils sont capables de mieux comprendre les enjeux à long terme. Donc c'est intéressant pour des questions qui touchent à l'environnement et puis la prise en compte des générations futures. Effectivement, oui. Voilà.
Très bien. Alors, les principes de l'assemblée délibérative, quels sont-ils les divers process qui permettent de construire une assemblée délibérative?
Alors, la première chose, c'est de poser une question claire à laquelle l'assemblée va s'efforcer de répondre, à savoir, comme on a dit tout à l'heure, comment réduire les émissions à effet de serre de 40% dans un esprit de justice sociale. Donc ça, c'est la question qui a été posée par le gouvernement et on attend des citoyens qu'ils amènent des réponses, des recommandations. Après, on constitue du coup les groupes de citoyens représentatifs par tirage au sort. On leur donne beaucoup d'informations, des informations précises venant de plusieurs sources, donc pluralistes, contradictoires. Donc tous les gens peuvent avoir des dossiers différents qui concernent le sujet à traiter, et aussi la possibilité de recourir à des experts en plus pour apporter des précisions. Ensuite, il y a tout un processus délibératif et à l'issue de ces processus, l'assemblée délibérative produit ce qu'on appelle une délibération de qualité, c'est-à-dire informée, égalitaire, tout le monde a les mêmes infos, tout le monde est inclus dans tous ses participes, dans tous ces ateliers de participation, et on produit un avis éclairé sur la question qu'on nous a posée. Donc c'est ça l'idée.
Alors, la démarche paraît très, très intéressante,
oui.
Mais on se pose une question à l'issue de cette réflexion qui prend un certain temps, ou un temps certain. Qu'est-ce qu'on fait avec les résultats obtenus?
Mais ça a été annoncé à l'avance. Donc, effectivement, l'enjeu, c'est de respecter ce qu'on a dit. On saura ça en janvier. Il faut dire à l'avance ce qu'on va faire avec les recommandations, sinon c'est pas motivant et ça perd toute crédibilité. Donc là, ce que le gouvernement a dit, c'est que les propositions de l'Assemblée des citoyens seraient soit soumises directement au vote à l'Assemblée, soit peut-être proposées par référendum.
D'accord.
Donc on va voir ce qu'ils vont faire avec.
Super. Donc restons attentifs, nous sommes tous concernés, bien évidemment. Et avant de passer à un exemple concret qui est celui de l'Irlande, on va écouter un nouveau morceau de musique avec Trio Greenwashing.
On veut du green, greenwashing. On veut des tours d'avion. Des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du
C'est nous les As, les Pinocchio du marketing.
On veut du green washing.
On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables, on voudrait 4 bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon. On veut du green washing.
C'est nous les As.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green washing.
C'est nous les As, les Pinocchio du marketing.
On veut du green washing.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques.
Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert.
Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green washing.
Nous, on veut tout simplement du green, un peu plus de green, et on continue à en parler dans cette 8e émission de Place aux idées, l'émission des Amis du Parc avec Véronique Morel. Et justement, l'exemple concret de l'Irlande, un exemple justement de démocratie, de délibération, je vais y arriver, démocratique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça a donné?
Alors, en Irlande, depuis 2013, donc ça fait 6 ans maintenant, a été mis en place une convention constitutionnelle. Donc, c'est en fait un regroupement d'une centaine de personnes qui changent suivant les sujets étudiés pour que ça ne soit pas toujours les mêmes qui participent. Donc, 100 personnes, avec parmi lesquelles 66 citoyens tirés au sort, représentatifs de la population en termes d'âge, de sexe, de localisation géographique et milieu socio-économique, 33 élus et un président. Donc les élus représentent proportionnellement les différents partis qu'on trouve dans l'Assemblée irlandaise. Et l'idée, c'est de faire travailler cette Assemblée pendant plusieurs mois sur différents sujets, de la même façon qu'on a expliqué tout à l'heure, en faisant appel si besoin à des experts techniques, juridiques, etc. en plus. Toutes les réunions plénières sont retransmises en direct, donc on peut regarder sur Internet ou sur une chaîne télé tout ce qui se passe dans ces réunions, accéder aux comptes rendus. lire toutes les contributions qui sont retranscrites et rendues publiques. Les réseaux sociaux et de l'ensemble des médias sont appelés aussi à communiquer autour de tout ce processus pour que toute la population du pays puisse être au courant de ce qui se passe et puisse apporter des contributions. Donc ça, ça donne vraiment un fonctionnement qui a une forte légitimité, qui est vraiment qui a la confiance en fait de l'ensemble des citoyens pour travailler sur le sujet, et leurs conclusions sont très attendues parce que les débats sont en plus se passent de façon très respectueuse. Alors après, on voilà, tous les arguments sont échangés, sont pesés, etc. Mais l'ensemble se passe de façon très qualitative en fait. C'est vraiment un débat démocratique.
D'accord. Et donc, par exemple, qu'est-ce qui a été, ça a apporté ses fruits sur deux points particuliers, justement, cette démarche. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ?
Oui, alors il y a deux sujets particulièrement qui ont été travaillés. En 2015, une réflexion de cette assemblée concernant l'égalité devant le mariage, hein, c'est-à-dire, comme on dit chez nous, le mariage pour tous, qui a donné lieu à un référendum après, en 2015, où l'ensemble de la population irlandaise était appelée à voter pour accepter ou pas cette proposition, qui a été acceptée, du coup. Et en 2018, donc pas très loin, il y a un an, l'Assemblée délibérative a planché sur le droit à l'avortement, qui en Irlande n'était pas encore en fait accordé, acté, comme on peut l'avoir en France. Donc l'Assemblée a produit une recommandation qui était d'accepter de faire rentrer ce droit à l'avortement dans la loi. Il y a eu un référendum là encore et la population de l'Irlande a accepté cette recommandation. Donc on voit bien là les plusieurs étapes du projet. C'est vraiment une réflexion intense d'un groupe de citoyens plus parlementaires. Après, on compose l'Assemblée comme on veut. Hein. Là, ils ont fait le choix d'avoir à la fois des citoyens et des élus qui délibèrent et qui réfléchissent pendant un temps quand même assez long. Et après, une validation ou pas de cette proposition via un passage soit à l'Assemblée nationale, soit au référendum.
Et donc sur la thématique de l'égalité devant le mariage, ça a été adopté également.
Aussi.
Donc c'est intéressant puisqu'effectivement nous c'est notamment, alors bon, l'avortement chez nous c'est voté depuis longtemps, mais par contre le droit au mariage pour tous, ça a quand même généré pas mal de manifestations lorsque ça a été voté. Et c'est intéressant de voir qu'effectivement quand les citoyens sont partie prenante, visiblement ça passe mieux.
Ça passe mieux, et puis c'est un pays qui est beaucoup plus traditionnaliste que la France, donc on voit quand même que ces assemblées sont capables de faire bouger les choses de façon assez profonde. On est sur des sujets de société, on n'est pas sur l'environnement, mais on est dans un contexte sociétal sûrement différent de la France, donc c'est une grosse avancée.
D'accord. Si on revient à cette convention citoyenne pour le climat en France, et notamment à la représentativité de la commission des 150 citoyens dont on a parlé, comment est-ce que tout ça s'est monté ?
Alors, toutes ces infos sont accessibles d'ailleurs sur le site internet de la convention qui s'appelle www.conventioncitoyennepourleclimat.fr. Et là, on peut trouver l'information que parmi ces 150 citoyens, on a 51% de femmes et 49% d'hommes. On a toutes les tranches d'âge conformes à la pyramide des âges de la population française qui sont représentées, 6 tranches d'âge. 6 niveaux de diplôme également proportionnels à la structure de la population française. Il est précisé d'ailleurs sur le site que 26% des citoyens de cette assemblée sont sans diplôme ou détenteurs d'un niveau brevet simplement. Donc c'est pas du tout une assemblée qui serait réservée à des gens spécialement diplômés ou déjà intégrés dans les processus de participation, etc. C'est vraiment ouvert à tout le monde et ça doit être représentatif de la population. Donc il y a toutes les catégories socio-professionnelles qui sont représentées et tous les territoires, avec également 5 représentants des territoires d'outre-mer. Donc c'est représentatif, c'est ça qu'on appelle la représentativité. Pas forcément le nombre, mais la composition par
à la fois
type de personne.
Géographique,
par âge,
sexuel, âge, effectivement. Et puis, il y a un comité de gouvernance également qui est mis en place.
Oui, alors le comité de ce qu'on appelle un COPIL dans le jargon des assos,
oui.
Un comité de bien gouvernance qui va être animé par le Conseil économique, social et environnemental, donc avec pas mal de parties prenantes. Et puis des coprésidents et des personnalités qui sont intégrées là-dedans pour vérifier que l'ensemble des informations demandées par les participants leur sont bien fournies, que c'est une information de qualité, que la démocratie fonctionne bien dans le groupe, que les débats sont animés correctement, que tout le monde peut participer, etc. Que les délibérations sont donc satisfaisantes. Donc il y a des gens là-dedans qui pilotent ça, qui sont issus de différentes sensibilités politiques. Il y a la présidente directrice générale de la Fondation européenne pour le climat. Il y a quelqu'un de Terra Nova qui est un think tank assez connu dans le domaine social.
Il y a des experts du climat.
Il y a des experts du climat, des experts de la démocratie participative. Qui sont soit des professeurs, des chercheurs, etc., qui sont donc experts dans toutes ces techniques d'animation de débat et pour que tout le monde puisse participer. Des experts dans le champ économique et social aussi pour venir apporter leurs compétences dans ces champs particuliers, puisque la question qui est posée demande aux citoyens donc de trouver des propositions pour réduire l'émission de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030, donc ce qui est quand même assez énorme, mais dans un esprit de justice sociale. Donc il faut vraiment intégrer aussi les aspects économiques et sociaux, hein. C'est pas juste une histoire d'environnement, c'est que tout marche ensemble et qu'on n'exclut
bien
pas
sûr.
Dans la transition écologique les plus fragiles
bien
économiquement.
Sûr. Alors ensuite, vous avez, il y a prévu un collège des garants. Alors qu'est-ce que c'est ce collège des garants ?
Donc c'est un comité qui va veiller au respect des règles d'indépendance des débats et de la déontologie de tout ce processus de délibération. Donc il y a trois personnalités qui ont été nommées là-dedans, et on peut citer par exemple Cyril Dion, qui est bien connu, c'est le réalisateur du documentaire Demain, que de nombreuses personnes ont vu, et également cofondateur du mouvement Colibri, qu'on connaît avec
Pierre Rabhi.
Avec Pierre Rabhi. Voilà. Et puis après, deux autres personnes, deux femmes, qui sont impliquées dans le service culture et questions sociales de l'Assemblée nationale, et une autre qui est directrice générale des services du Sénat. Donc des personnalités en vue qui sont vraiment là pour garantir que le débat se passe au mieux possible.
Très bien. Et donc ensuite, sur la planification de cette démocratie...
délibérative.
Je vais y arriver. Délibérative. Merci, Véronique. Ça a été lancé en août et ça va aller jusque...
En janvier. Donc, ce qui a été lancé en fin août, c'est le processus de recrutement, donc de tirage au sort, qui a pris un mois jusqu'à fin septembre. Et ensuite, il y a 6 week-ends de travail prévus depuis début octobre jusqu'à janvier. Donc ces personnes-là tirées au sort vont donner 6 week-ends de leur temps pour cette expérience de citoyenneté, on peut dire.
Pour abonder à la réflexion.
Voilà,
oui.
Pour venir nourrir la réflexion. Donc 6 week-ends de travail à l'issue desquels ils vont formuler des propositions qui seront soumises, donc c'est ce qui est annoncé, soit au vote du Parlement, donc de l'Assemblée nationale, soit au référendum, ou éventuellement directement appliqué par mesure réglementaire. Donc on peut vraiment tout consulter, c'est super intéressant d'aller voir sur le site conventioncitoyennepourleclimat.fr, consulter les travaux qui sont filmés, consulter tous les documents en ligne, et puis venir contribuer. Il y a une plateforme de contribution qui est accessible depuis le 25 octobre qui permet à tout habitant, tout citoyen, toute association, etc., d'adresser des propositions au groupe qui travaille sur ces sujets-là.
Donc de participer également au projet.
Voilà.
Et puis, il y a aussi cinq groupes de travail qui sont lesquels, du coup, sur ces réflexions.
Alors, c'est les groupes d'octobre, je pense qu'ils vont rester stables sur toute la durée du processus, mais il y a un groupe sur... se nourrir, donc agriculture et alimentation, se loger, habitat et logement, travailler et produire, donc l'emploi et l'industrie, se déplacer, donc aménagement et transport, et consommer, donc mode de vie et de consommation. Donc très ça bien. Touche pas simplement notre vie quotidienne, ça touche aussi l'agriculture, l'industrie, les transports, donc des activités économiques qui ont besoin d'être revisitées aussi.
Tout à fait. Alors effectivement, on pourrait critiquer la démarche si on était mauvaise langue en disant qu'on se nourrit de l'illusion de la démocratie, mais ma foi, on a vu que ça pouvait marcher. En tout cas, ce genre de process marchait sur des décisions importantes en Irlande. Il y a quand même une vraie conscience citoyenne, et heureusement d'ailleurs, qui semble être prise progressivement sur cette notion du changement climatique et l'urgence qui va avec. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait en dire, Véronique ?
On pourrait en dire qu'on va attendre de voir en janvier les conclusions. Et est-ce que le gouvernement fera avec ces conclusions ? Ils ont annoncé qu'ils
avant
allaient...
Avant de juger, avant de trancher.
Avant de trancher, et puis on en reparlera en janvier ou en février. Si rien n'a été fait, on pourra critiquer. Mais si les propositions sont allées jusqu'à l'application, on pourra se dire, on a fait un pas vers la démocratie délibérative, et c'est bien.
Et puis, à la limite, soyons novateurs, mais on a également la Grande-Bretagne qui nous suit de pas très loin sur un process un peu identique.
La Grande-Bretagne vient de lancer la même chose sur une assemblée citoyenne sur le sujet du réchauffement climatique qui va travailler à partir de janvier pendant 4 week-ends. Donc ça essaime tout doucement.
C'est bien.
C'est intéressant.
C'est très intéressant. Ouais. Et si on pouvait donner le là du côté français, ma foi, ce serait...
Oui, on a pris la balle de l'Irlande et on l'a envoyée à l'Angleterre.
Voilà. Sur le sujet du réchauffement climatique.
Exactement.
Et on va reprendre notre souffle avec une troisième chanson, Objectif Terre de Ridan.
Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète.
Pourquoi tu pleures? Pourquoi
la terre en aura le bonheur, point, c'est tout.
Aujourd'hui j'ai de la chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. C'est que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Nous paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien.
Chez un arbre enfin. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils sont fous. La terre en a ras-le-bol comme nous. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche, chez un arbre enfin. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils sont fous.
Je suis sa mère. Vous déchaînerez mes nerfs, je serai guère. Qu'elle vole vos maisons au-delà des mers. Vous donnerez des noms à mes colères. Vous êtes la raison de vos prières. Et vous aurez raison de vos cimetières. Qu'elles jaillissent les eaux sur votre espèce. N'aurez plus conscience de votre petitesse. Je ferai de vos villes ce bel enfer, plus chaleureuse encore que le paradis. Vous tremblerez de peur dans vos demeures, car l'homme a fait de l'homme. cette chose sans vie.
Elle pleure la planète et elle en a ras-le-bol et nous essayons de porter sa parole dans cette 8e émission des Amis du Parc, Place aux idées, qui est aussi la vôtre. Et on en arrive sur cette fin d'émission avec Véronique Morel à vous présenter les prochains événements en Chartreuse, Véronique.
Oui, avec tout d'abord des nouvelles d'un projet que l'on suit dans l'écolab des Amis du Parc. C'est l'épicerie mobile Vrac en Chartreuse, dont on a parlé dans une précédente émission.
On attend avec impatience.
Oui, donc très bonne nouvelle, Anthony a trouvé son camion. Qu'il est en train d'aménager certainement maintenant là, avec un espoir pour démarrer son activité d'ici la fin de l'année.
Donc, ça tombe bien, c'est le Père Noël.
Ça tombe bien, donc il sillonnera les routes de Chartreuse, il viendra s'installer sur les marchés dans les différentes communes qu'il a identifiées pour venir livrer des produits d'épicerie, d'entretien, etc. en vrac, donc sans emballage, qu'on pourra éventuellement réserver à l'avance ou acheter sur place à son camion. Donc, bonne chance à Anthony et on l'attend avec impatience.
Et je dirais même, on l'attend de pied ferme.
De pied ferme. Voilà. Ensuite, on vous donne rendez-vous le 28 novembre prochain à Saint-Laurent-du-Pont, à la Maison des Associations à 20h30 pour le deuxième café éco-citoyen qu'on organise sur le thème de l'écolab pour venir à la rencontre des porteurs de projets que vous pourrez donc découvrir, discuter avec eux et venir peut-être parler de vos projets citoyens, associations, collectifs. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour la transition écologique? Rendez-vous le 28 novembre.
Et puis un dernier rendez-vous un peu plus lointain, d'ici à 2020.
Le prochain festival Culture Éco, organisé par l'ADEC, Association des Entremonts, va avoir lieu le 8 février prochain, donc c'est un petit peu loin, mais on vous l'annonce déjà. Le thème, ça sera l'économie circulaire, et les Amis du Parc y participeront, Radio Couleur Chartreuse aussi.
Bien évidemment.
Peut-être qu'on en parlera lors d'une prochaine émission, notre 9e émission, ça pourrait être un sujet très intéressant.
Avec l'équipe du festival Culture Éco, donc les personnes de l'ADEC, on espère qu'elles pourront se rendre disponibles. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Merci Véronique pour cette émission riche, très très riche. Que nous avons partagé.
Merci Sophie et merci à Lucas pour la super programmation musicale.
Complètement. Merci à Lucas pour la technique et la super programmation musicale et à très bientôt pour une prochaine émission. On se quitte avec Yannick Noah.